Voilà, deuxième intervention à présent. J'appelle le professeur Frédéric Blanc à me rejoindre sur scène, neurologue co-responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, rattaché au pôle de gériatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je vous cède bien volontiers la parole. Vous avez donc la zapette pour le PowerPoint. Allez-y.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je suis très content d'être là et d'être avec vous. Nous allons pouvoir échanger. J'aimerais vraiment remercier la Fondation Recherche Alzheimer de faire ces entretiens Alzheimer chaque année. Je pense que c'est un bon moment pour pouvoir échanger avec tout le monde, avec les aidants, avec les patients, mais aussi avec la population du Grand Est, et ça me semble tout à fait important. Alors, Alix Ravier vous l'a dit, une très très bonne nouvelle quand même, l'arrivée de ces médicaments, probablement en 2024. Ça, c'est pour la maladie d'Alzheimer. C'est pour moi une mini-révolution. On n'avait pas vécu ça jusqu'à présent. Un médicament qui agisse sur les lésions, qui agisse sur le fonctionnement, qui agisse aussi sur les aspects cognitifs. Mais les choses se compliquent. Les choses se compliquent parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Et en réalité, il y a d'autres maladies. Alors, il y en a une que vous connaissez peut-être, c'est la maladie à corps de Lévy. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle le late en anglais, ou étale en français. On va dire late en anglais, c'est mieux. Et ce late en anglais, on va en parler tout à l'heure. Alors, la maladie à corps de Lévy, quand même, c'est 200 000 personnes en France. Ce qui fait qu'on vous disait tout à l'heure, il y avait à peu près 1 million de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. En fait, on est déjà à 1,2 million de patients avec des maladies neuroévolutives cognitives en France. Et comment a commencé l'histoire de la maladie à corps de Lévy ? Il commençait avec Kenji Kosaka, que vous voyez ici, qui est un collègue japonais, qui en 1976 va décrire les premiers cas de maladie à corps de Lévy. Et il faudra attendre 20 ans, 1996, pour que Neil Makis, un collègue anglais d'origine écossaise, comme son nom l'indique, nous fasse part de ses idées sur finalement les critères cliniques de cette maladie à corps de Lévy dont je vais vous parler. Et la lésion principale de cette maladie à corps de Lévy, c'est ce que vous voyez là. Alors c'est, si vous voulez, cette pastille rose clair là que vous voyez là, qui est finalement très discrète et en fait que les neuropathologistes ne voyaient pas ou ont souvent ignoré, et au bout du compte qu'ils ont fini par voir, et qui en fait est le reflet d'une protéine qui s'accumule, qui est l'alpha-synucléine. Alors cette alpha-synucléine, en fait, elle se concentre, semble-t-il, à différents endroits, mais notamment au niveau de l'insula, qui est cette zone très à l'intérieur du cerveau. Insula que vous voyez ici, et cette insula est diminuée de volume au tout début de la maladie à corps de Lévy. C'est ce qu'on voit ici sur ces coupes de cerveau. Et vous voyez ici différents types de lésions corps de Lévy. Et en fait, la maladie à corps de Lévy, elle est là. Vous voyez qu'il y a plus de lésions marron, on va dire. Et ces lésions marron, c'est vraiment le reflet de l'intensité de l'atteinte en termes de corps de Lévy. Alors que pour la maladie de Parkinson, qui contient aussi des corps de Lévy, vous voyez, dans l'insula, il y a beaucoup moins de corps de Lévy. Alors, la maladie à corps de Lévy, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il est probable que dans votre vie, vous avez déjà rencontré des patients atteints de maladie à corps de Lévy, puisque je vous ai dit que ça représentait au moins 200 000 personnes en France. Vous en rencontrez dans la rue, vous en rencontrez peut-être chez vos proches. Et ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste en l'existence de troubles cognitifs, comme dans la maladie d'Alzheimer. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes troubles cognitifs, mais on va simplifier les choses pour dire qu'il y a des troubles cognitifs, c'est-à-dire il peut y avoir des troubles de concentration, des troubles de mémoire, des troubles d'organisation, etc. Et en plus, se rajoutent des symptômes. Si un de ces symptômes est présent chez le patient, on parle de maladie à corps de Lévy possible, tandis que si deux de ces symptômes, parmi les quatre que vous voyez là, apparaissent chez le patient, on parle de maladie à corps de Lévy probable. Quels sont ces symptômes? On va les développer après. Ce sont les fluctuations cognitives et ou de vigilance, les hallucinations visuelles, les troubles du comportement en sommeil paradoxal et le syndrome parkinsonien. Alors on y va. D'abord les troubles cognitifs, les fluctuations cognitives et de vigilance. J'ai souhaité vous montrer ça sous la forme de photo parce que je pense que c'est plus clair. Eh bien, ce qui est le plus évident souvent, c'est les fluctuations de vigilance, c'est-à-dire des patients ou des personnes qui vont s'endormir alors que ce n'est pas le moment de s'endormir. Je ne parle pas le soir après 19h, je vous parle de personnes qui vont s'endormir pendant le repas, de personnes qui vont s'endormir en journée alors qu'ils ont bien dormi. Et voilà, c'est par exemple l'exemple de ce monsieur qui n'a pas de maladie à corps de Lévy à ma connaissance, c'est des photos que j'ai prises sur Internet. Ça peut être aussi des patients qui ont un peu le regard fixe à certains moments, comme s'ils étaient un peu ailleurs, et ça dure plus que s'ils étaient un petit peu rêveurs, vous voyez, c'est plus long. Et puis, c'est aussi des patients qui vont avoir des moments où leurs idées vont avoir tendance à s'embrouiller, à être pas claires, et puis d'autres moments où, finalement, ils vont être comme vous et moi, converser parfaitement normalement. Donc ça, c'est vraiment les fluctuations. L'idée, si vous voulez, c'est des moments où ça va, et puis des moments où ça va pas bien, puis des moments où ça va, puis des moments où ça va pas bien. C'est typique de la maladie à Cordes-Lévy. L'autre point, ce sont les hallucinations visuelles. Alors, les hallucinations visuelles, ça va être finalement voir des choses qui n'existent pas. Alors, ici, par exemple, un chat que la patiente a l'impression de voir, mais en réalité qui n'est pas là, hein, il n'y a pas de chat. Mais ça peut être aussi, au tout début, des choses plus subtiles, qu'on appelle des pré-hallucinations ou des hallucinations mineures, comme par exemple, ici, une sensation de présence. C'est-à-dire, le patient a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, il a l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de lui, a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière lui. Moi, j'ai des patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome de l'ange gardien, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir en permanence quelqu'un avec eux, qui est plutôt positif, hein, c'est pas un mauvais, c'est pas un petit diable, on va dire, hein, c'est un ange gardien. Vous pouvez avoir aussi des patients qui vont avoir des sensations de passage, c'est-à-dire régulièrement, ils vont voir passer des choses sur le côté, alors qu'il n'y a rien, et ça, on le retrouve régulièrement au tout début de la maladie à Cordes-Lévy. Enfin, il peut y avoir des illusions visuelles. Donc, vous voyez cette veste qui est accrochée au porte-manteau. Eh bien, le patient peut avoir l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui est là avec la veste. Ça, c'était pour les aspects de fluctuation, les aspects d'hallucination. L'autre aspect qui est plus difficile à diagnostiquer, et mais dont je suis sûr ma collègue va vous parler tout à l'heure, c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal, c'est la nuit, le patient qui dort, mais qui va vivre ses rêves. Et vivre ses rêves à tel point, alors là c'est caricatural, à tel point qu'il va se mettre à taper dans un ballon, et donc le conjoint qui dort à côté peut se prendre un coup de pied. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est que le patient vit ses rêves, et donc il peut ne pas vivre ses rêves pendant 2 mois, puis se mettre à vivre ses rêves une nuit, puis parfois il peut vivre ses rêves toutes les nuits, peu importe. Lui parfois ne s'en rendra pas du tout compte. D'autres fois, il pourra indiquer qu'il a l'impression de faire des cauchemars la nuit, mais des cauchemars inhabituels, plus intenses que ce qu'il faisait auparavant. Dernier point, qui est plus subtil que dans la maladie de Parkinson, qui est le syndrome parkinsonien. Ce syndrome parkinsonien, souvent, se limite à un ralentissement physique, hein, donc des patients qui deviennent plus lents physiquement. Par contre, on peut remarquer chez certains d'entre eux cette posture un petit peu en avant qu'on appelle la camptocormie, ou bien même, et là c'est assez fréquent dans la maladie à Cordes-Lévy, un patient qui va se mettre à chuter de façon régulière. On sait que 80% des patients Cordes-Lévy chutent dans l'année, font une chute dans l'année. Hein, et donc, vous voyez que c'est un élément qui est tout à fait important. Alors, on en a terminé avec la maladie à Cordes-Lévy et on passe à une autre maladie qui est le LATE. Alors le LATE, c'est un peu la nouveauté de ces dernières années, ça a été déjà décrit depuis longtemps, c'est-à-dire depuis au moins 2010. Mais en réalité, on ne connaissait pas bien cette maladie. On a des données un peu plus solides pour savoir de quoi il s'agit. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'abord d'une encéphalopathie, c'est-à-dire une atteinte du cerveau. TDP43, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la plaque amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi l'équivalent du Cordes-Lévy pour la maladie à Cordes-Lévy. Donc, c'est des dépôts de cette protéine qu'on appelle TDP43, liée à l'âge, parce que c'est vraiment une maladie qui arrive tardivement, en général après 80 ans, et qui prédomine dans les régions limbiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les régions limbiques ? Ce sont les hippocampes, hein, qui sont ici, que je vous montre ici, là, en rouge et en jaune, hein, à l'intérieur, plutôt ici en jaune, excusez-moi, ça, ce sont les hippocampes. Les régions aussi fronto-orbitaires, c'est-à-dire juste au-dessus des orbites, et puis des régions insulaires qu'on ne voit pas ici, qui sont ici de façon discrète. Voilà. Ce LATE, cette année, en 2023, pour la première fois, on commence à avoir une petite idée de ce qu'il peut donner cliniquement. Voilà ce que disent nos collègues donc Butler, Pagnotti et collaborateurs d'un papier de 2023 paru dans Neurology. Donc, ils confirment que ça commence bien tardivement, après 80 ans. Premier élément. Deuxième élément, les patients sont globalement moins atteints que dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ils ont effectivement des problèmes de mémoire, mais ces problèmes de mémoire sont, semble-t-il, moins fréquent, moins intense que dans la maladie d'Alzheimer. Deuxième élément, ils ont aussi parfois des atteintes comportementales, ils peuvent être un peu désinhibés, un peu inadaptés dans leur lien avec les autres, mais pour autant, c'est moins fréquent à nouveau que dans la maladie d'Alzheimer. L'autre chose qui est assez surprenante, mais qui est importante à dire, c'est que le délai est plus tardif que dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est des patients qui peuvent vivre sans problème jusqu'à au-delà de 90 ans. Et puis, il y a souvent, dans un tiers des cas, ce qui est beaucoup plus rare dans la maladie d'Alzheimer, qui représente que 5% des patients, eh bien, il y a une sclérose hippocampique, c'est-à-dire il y a des hippocampes qui deviennent très 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 petits. Donc c'est une zone du cerveau très interne et c'est ce qui nous permet, nous, jusqu'à présent, ce qui nous permettait, nous, de les repérer. Enfin, ce qui est assez surprenant, mais qui est intéressant, c'est que la précédente maladie dont je vous ai parlé, la maladie à Cordelevy, eh bien, est associée à ce late dans 50% des cas. Donc vous voyez que ça se complexifie un peu. Plusieurs maladies. Et alors, finalement, cette maladie d'Alzheimer, est-ce qu'elle est vraiment une maladie isolée? Eh bien, en réalité, pas. C'est-à-dire que la maladie à Cordelevy dont je vous ai parlé et la maladie late dont je vous ai parlé sont fréquemment associées à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer est rarement seule. Elle est en général associée, dans 40 à 50% des cas, par des Cordelevy et dans 40 à 50% des cas, par des lésions late. Et alors, quand vous regardez, si vous voulez, ces petits schémas-là, là, c'est deux cohortes différentes de patients. Là, c'est une cohorte de 700 patients. Là, une cohorte de plus de 1000 patients qui ont été autopsiés et dont on est certain du diagnostic, hein, avec des troubles cognitifs et des lésions. Et ce dont on se rend compte, c'est que le late, si vous voulez, il est peu présent quand il y a peu de lésions atteintes, il y a peu de lésions de maladie d'Alzheimer. Par contre, quand il y a de fortes lésions de maladie d'Alzheimer, à ce moment-là, dans 50% des cas, il y a aussi un late. Et quand on regarde la maladie à Cordelevy, les Cordelevy, eh bien, au début de la maladie d'Alzheimer, c'est peu présent. Par contre, quand la maladie d'Alzheimer est forte, intense, eh bien, à ce moment-là, dans plus de 50% des cas, vous avez aussi des Cordelevy. Donc vous voyez, c'est très très compliqué. On avait l'impression qu'il y avait une maladie. En réalité, il y en a souvent plusieurs associées. Maladie d'Alzheimer, maladie à Cordelevy, late. Et ça explique probablement pourquoi on a eu un petit peu de mal jusqu'à présent, Alix Ravier vous l'a bien montré, à montrer l'efficacité de certains traitements. Il est possible qu'il y ait des traitements qui étaient réellement efficaces sur la maladie d'Alzheimer seule, mais comme ces patients atteints de maladie d'Alzheimer n'étaient pas seuls, parce que la majorité des patients ne sont pas seuls, hein, il y a plusieurs maladies, eh bien, c'était peut-être pour ça qu'on a eu du mal à démontrer qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait un intérêt à ces médicaments.
Alors, professeur Blanc, justement, sur l'aspect évolutif, il est peut-être intéressant, à savoir de prendre la maladie d'Alzheimer seule, la maladie à Cordelevy seule, et puis de voir aussi les deux maladies qui s'associent.
Eh bien, complètement. Effectivement, je vais un peu vite. L'évolution de ces maladies. Alors, on n'a pas de données sur le late encore, parce que on a du mal encore à bien repérer les patients late. Mais sur la maladie à Cordelevy et la maladie d'Alzheimer, on a des données. Alors ça, c'est des données de notre cohorte Alpha-Lévy-MA, qui est une cohorte de patients à Cordelevy et maladie d'Alzheimer, mais aussi maladie d'Alzheimer plus maladie à Cordelevy. Eh bien, c'est des données sur 8 ans d'évolution. Hein, donc M96, c'est 96 mois, c'est 8 ans d'évolution. Et ça, c'est un test, ce qu'on appelle le mini-mental test, dont vous parlez Alix Ravier, qui est un test qui nous permet de dire... ben, là, quand on est tout en haut, ça va plutôt très bien. Et puis là, quand on est tout en bas, ben, c'est que ça va plutôt très mal, hein, si je devais résumer les choses très simplement. Eh bien, avec le temps, ce dont on se rend compte, c'est que les patients qui débutent à un moment où ils vont plutôt bien, voire très bien, hein, globalement, même s'ils ont une maladie, elle ne fait que débuter, qu'ils aient une maladie Alzheimer ou une maladie à Cordelevy, eh bien, avec le temps, quand il y a une maladie d'Alzheimer, ben, ça baisse très clairement. Et quand on est à 8 ans, ben, là, on est à des stades sévères. Et en fait, on arrive à des stades sévères dès 5 ans, hein, c'est-à-dire 5 ans après, on est déjà à des stades sévères, et c'est encore plus le cas quand il y a un Cordelevy, une maladie à Cordelevy, où le stade sévère arrive plus rapidement. Par contre, quand on a affaire à une maladie à Cordelevy seule, sans maladie d'Alzheimer, eh bien, en réalité, 8 ans après, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, ça a un petit peu baissé. C'est statistiquement significatif par rapport à des sujets sains. Hein, le sujet sain, lui, les sujets sains n'ont pas bougé, les Cordelevy ont baissé, mais ça n'a pas autant baissé qu'avec la maladie d'Alzheimer ou avec la maladie d'Alzheimer et la maladie à Cordelevy. Et ça, plusieurs études l'ont démontré. Nous, on avait déjà montré ça dans une autre étude en 2017 où on voyait qu'on pointillait ici les doubles maladies Alzheimer plus Cordelevy arrivées à un stade sévère en 4 ans. Là, sur la précédente, c'était 5 ans. Et puis, on l'a montré aussi avec des collègues au niveau européen où on montrait qu'à partir du moment où il y a un stigmate de Cordelevy, ben, ça baisse plus et ça avait été montré par d'autres équipes. Donc, si on regarde la maladie à Cordelevy, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a toute une phase très lente, peut-être pendant 8 ans, où ça baisse peu. 8 ans, c'est long quand même, hein, où ça baisse peu. Et puis, il y a une deuxième phase où ça baisse plus franchement, comme un peu dans la maladie d'Alzheimer. Mais la question, c'est pourquoi on passe de cette phase à cette phase-là? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Voilà. Alors,
est-ce qu'il y a des traitements pour la maladie à corps de Lévy?
Eh bien oui, la question quand même, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas un effet de traitement, y compris pour la maladie à corps de Lévy? Parce que on parlait tout à l'heure de certains médicaments qui ont été déremboursés. Alors malheureusement, c'est le cas pour aussi la maladie à corps de Lévy. Et il se trouve qu'en fait, la cohorte dont je vous ai parlé là juste avant, hein, donc celle-ci là sur, si je résume, le trait bleu où ça évolue très très lentement pendant 8 ans, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on s'occupe très bien des patients à ce moment-là. On essaye d'optimiser le traitement, tant du point de vue des médicaments hein, dont je parle ici, mais aussi du point de vue de la kinésithérapie, de l'orthophonie. Donc il y a un accompagnement optimal, j'espère, hein, dans nos centres au niveau national et y compris sur Strasbourg. Et à vrai dire, on va essayer de compenser, si vous voulez, un manque de tout un tas de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est un peu comme les hormones du cerveau, si vous voulez. Et on va compenser le manque d'acétylcholine, on va compenser le manque de dopamine, on va compenser le manque de sérotonine, de noradrénaline, mais aussi de mélatonine. Eh bien, il y a des patients qui ont beaucoup de traitements, effectivement, parce qu'ils en ont besoin, et ils vont plutôt bien, en tout cas pendant assez longtemps. Et il est probable que c'est peut-être en lien avec ça, mais aussi peut-être en lien avec le fait que c'est la maladie Alzheimer, ça n'est pas la maladie à corps de Lévy, la maladie Alzheimer, ça n'est pas le late, et donc forcément, il y a des évolutions différentes. Voilà, donc, si je devais résumer, il est vraisemblable qu'il y a au moins 200 000 patients atteints de maladie à corps de Lévy, on parlait 1 million de patients atteints de maladie d'Alzheimer, vraisemblable aussi qu'il y ait 200 000 patients au moins, on n'a pas du tout de statistiques, mais c'est une hypothèse que je fais, atteints de late, ce qui fait 1 400 000, on est déjà au niveau du cancer, hein. Et il se trouve que Lewy et Late sont très souvent associés à la maladie d'Alzheimer, donc c'est plus compliqué qu'on l'imaginait, il y a des liens très forts entre autres toutes ces maladies, et finalement, deux maladies semblent évoluer moins vite, hein, ce corps de Lewy et ce Late, est-ce que c'est lié au traitement symptomatique et c'est lié à la localisation de l'atteinte? Et finalement, ce qui nous reste à faire, c'est de mieux diagnostiquer ces patients, ça paraît assez important, et puis développer de nouvelles thérapeutiques, parce qu'il y a quand même une phase après, où malheureusement ça va baisser de façon plus nette. Voilà, je vous remercie.
Des demandes de prise de parole, bien sûr, après le remerciement au professeur Blanc qui est à votre disposition pour des demandes de compléments d'informations qui veulent aussi réagir par rapport à ce qui était évoqué. Comme d'habitude, merci de vous présenter et puis de pouvoir apporter votre élément d'informations ou poser votre question ou apporter un témoignage de vécu d'un proche ou autre. Professeur Blanc, concernant les... Vous avez évoqué les traitements là, à la fin de votre intervention, mais est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui sont en étude actuellement?
Alors oui, sur le late, il n'y a pas du tout d'études thérapeutiques puisque c'est vraiment une nouvelle maladie. Vous voyez, c'est en 2023 qu'on commence à décrire les symptômes de cette maladie. Par contre, sur la maladie à corps de Lévy, on a des données qui sont quand même intéressantes. La première chose, c'est que, je le disais un petit peu dans mon topo, si on augmente l'acétylcholine, donc si on utilise des médicaments comme le donépézil dont parlait Alix Ravier dans la maladie Alzheimer, mais qui marche encore mieux dans la maladie à corps de Lévy, si on utilise aussi la rivastigmine, qui est un autre médicament qui permet d'augmenter artificiellement l'acétylcholine dans le cerveau, eh bien, globalement, les patients en bénéficient. Hein, ils ont un gain de 2 points sur le MMS, hein, ce test dont je vous parlais qui baisse là drastiquement pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est pour les aspects cognitifs. L'autre point, c'est que récemment, on a eu des données d'essais thérapeutiques avec un médicament qui s'appelle la pimavancérine, qui globalement a montré un intérêt pour lutter contre les problèmes de comportement chez les patients qui avaient des troubles cognitivo-comportementaux comme la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy ou d'autres. Et ce médicament-là me semble particulièrement intéressant dans la maladie à corps de Lévy parce qu'il ne va pas aggraver le syndrome parkinsonien, parce que c'est un des points très, très, très importants de la maladie à corps de Lévy, c'est qu'il y a certains médicaments qui font beaucoup de mal aux patients. Et il se trouve que la pimavancérine ne fait pas de mal, mais ce n'est pas encore un médicament pour lequel nous avons une autorisation en France. Et puis nous, sur Strasbourg, on est en train de tester ce qu'on appelle de la stimulation magnétique transcrânienne. Donc on stimule, si vous voulez, l'insula dont je vous ai montré qu'il était particulièrement atteint dans la maladie à corps de Lévy, pour voir si cette stimulation magnétique va permettre qu'il y ait moins de fluctuations, pour voir si cette stimulation magnétique va permettre qu'il y ait moins de baisse chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy.
Une demande de prise de parole, une demande de précision à formuler auprès du Alors, peut-être les personnes qui n'ont pas encore parlé, allez-y. Merci de vous présenter.
J'entends dire que les séances, par exemple, tout ce qui touche au sport, ça peut favoriser positivement.
Vous avez raison. Alors, on va vous en parler juste après, je crois. Mais je peux quand même donner un élément. Hein. Globalement, 20-30 minutes de marche par jour, c'est excellent pour le cerveau. Et donc, ça a des effets bénéfiques sur l'évolution de la maladie. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lévis ou autre. Oui.
Alors je rebondis, est-ce qu'il faut le faire effectivement au quotidien ou bien il faut se limiter à ne pas... parce qu'on peut, faire un marathon, on peut faire 5 km, ou on peut... quelle est la dose, je dirais.
Alors moi, disons que sur les études, docteur Jonvaux en parlera mieux que moi, mais sur les études, si vous voulez... Vous pouvez faire ça tous les jours, 20-30 minutes de marche, ou vous pouvez faire une grande marche tous les 3 jours. Vous voyez, ça n'a pas d'importance a priori. Hein, voilà, a priori, mais peut-être que vous aurez des réponses tout à l'heure différentes.
Demande de parole synthétique, s'il vous plaît, parce qu'on a un horaire à tenir.
Juste pour l'âge, est-ce qu'il y a un âge précis où ces deux maladies se déclenchent ou c'est aléatoire?
Alors ça, c'est une question importante. Autant dans la maladie d'Alzheimer, au plus on avance en âge, au plus ces maladies augmentent. Hein, ça c'est, et donc vous avez moins de patients atteints de maladie d'Alzheimer à 50 ans qu'à 90 ans. Autant pour le late, semble-t-il, il y a quasiment personne ou quasiment pas de patients avant 80 ans. Donc c'est vraiment très tardif. Et ça va être crescendo après 80 ans. Donc ça c'est un point important. Hein, donc ce serait vraiment une maladie des... octogénaires, nonagénaires, centenaires, hein, le late. Autant pour la maladie à corps de Lévis, eh bien, ça peut commencer dès l'âge de 50 ans aussi, et pareil, être plus fréquent après 85 ans. Donc globalement, si je devais résumer, au plus on avance en âge, au plus on est à risque de développer ces maladies-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les centenaires vont développer ce type de maladie. En réalité, non. Hein, donc c'est pas la norme de développer ces maladies-là.
Madame. Allez-y.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous demander si cette maladie est une maladie, la maladie à corps de Lévis est une maladie héréditaire. Je vous explique pourquoi. Ma belle-mère était atteinte à l'âge de 60 ans. À l'époque, c'était dans les années 90. On avait diagnostiqué une maladie d'Alzheimer. Et mon mari, maintenant, ça fait 3 ans qu'il est diagnostiqué maladie à corps de Lévis. Parce que lui, il a fait la ponction lombaire. Et sur les 3 marqueurs, il n'y avait qu'un seul marqueur qui était positif. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Quoi.
Oui.
Donc, je voulais savoir si, comme c'est très jeune,
héréditaire.
Est-ce qu'on peut parler d'hérédité, enfin je ne sais pas, c'est par rapport à nos enfants.
Professeur Blanc.
Alors, ça c'est une question très importante. En fait, on n'a pas la réponse actuellement. C'est-à-dire que dans la maladie à corps de Lévis, on n'est pas très au clair sur les formes génétiques de maladie à corps de Lévis. Il y a des descriptions dans la littérature, mais elles sont peu nombreuses. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des facteurs de risque génétiques. Tout à l'heure, le docteur Ravier vous parlait de l'apolipoprotéine E4, qui est un facteur de risque génétique de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, si on est apo E4, on est plus à risque, souvent après 80 ans, de développer maladie d'Alzheimer. Pour la maladie à corps de Lévis, il y a un autre facteur de risque qu'on appelle la GBA, ou glucocérébrosidase, qui est un facteur de risque aussi de maladie à corps de Lévis. C'est-à-dire, si on a cette glucocérébrosidase mutée ou anormale, on est plus à risque de développer une maladie à corps de Lévis. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément la développer. Il est probable néanmoins, il y a quelques cas dans la littérature qui le montrent, qu'il y ait quand même des vraies formes génétiques, c'est-à-dire qui arrivent tôt, avant 60 ans, et qui puissent se transmettre. Notamment, il y a eu des descriptions avec le gène de la synucléine qui donne les corps de Lévis, hein, qu'on appelle le gène SNCA. Et ce gène SNCA, quand il est... Plutôt que, alors normalement, il y a 2 gènes SNCA sur chaque chromosome. Et bien là, il y a 3 gènes SNCA. Et donc, quand il y a cette triplication SNCA, et bien il y a un plus haut risque de... il y a des formes génétiques probables de maladie à corps de Lévis. Mais l'affaire n'est pas encore claire. Et je vous conseille de vous rapprocher du médecin qui s'occupe de votre mari, hein, que ce soit un gériatre, un neurologue ou un psychiatre, et l'interroger là-dessus. Sachez que l'équipe de génétique de Lille, fait des analyses génétiques pour justement essayer de chercher des gènes qui favoriseraient l'émergence de la maladie à corps de Lévis.
Professeur Blanc, peut-être un dernier point. Parlons des problèmes comportementaux. Quels sont ces problèmes de comportement qui peuvent apparaître chez le patient atteint de la maladie à Cordes-Lévy?
Alors, merci pour cette question parce que c'est vraiment une question fondamentale. Nous, on le voit régulièrement et au quotidien avec nos patients qui est avec le docteur Avi à l'unité cognitivo-comportementale. En fait, les patients atteints de maladie à Cordes-Lévy, même si au début ils baissent tout doucement, à un moment donné ça va plus baisser et ils peuvent apparaître à ce moment-là des problèmes de comportement. Ce qu'on appelle les problèmes de comportement, c'est très général. C'est-à-dire que ce qui est très fréquent au tout début de la maladie, c'est plus d'anxiété et plus de dépression. Les patients Cordes-Lévy sont plus anxieux, plus dépressifs que les patients atteints de maladie Alzheimer. Ça, la quasi-totalité des études le montre. Autre élément, vous l'avez vu, c'est les patients qui font volontiers des hallucinations. Alors, au début, ces hallucinations, finalement, le patient est conscient qu'elles ne sont pas vraies. C'est-à-dire, ce qu'il voit n'est pas vrai. Et quand le médecin lui dit, écoutez, vous avez une maladie à Cordes-Lévy, c'est pour ça que vous faites ces hallucinations, ça le rassure. Il va pouvoir vivre longtemps avec ces hallucinations. Mais à un moment donné, il va finir par croire à ses hallucinations. Et donc là, on n'est plus dans le champ de l'hallucination, on est dans le champ du délire. Et là, ça peut être très compliqué pour les familles de gérer ces délires de persécution, ces délires X ou Y. Et là, ça nécessitera effectivement des traitements pour lutter. Autre point, mais là qui est très fréquent dans toutes ces maladies, et qui est un problème de comportement assez important, même s'il est moins visible, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est la démotivation. Qu'on ait une maladie à Cordes-Lévy, qu'on ait une maladie d'Alzheimer, qu'on ait un late, en fait, l'apathie est très fréquente. Et cette apathie, c'est la démotivation pour tout. Et donc, le patient dit non, mais je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui, alors qu'il en est capable, mais il ne le fera pas parce qu'il n'a pas la motivation pour le faire. Et là, malheureusement, nous n'avons pas de très bons traitements contre l'apathie.
Merci, professeur Blanc. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fondation Recherche à Alzheimer. On peut applaudir le professeur Blanc une nouvelle fois pour ces informations.